vous avez rappelé cette perspective particulière de la personne chez saint Thomas dans sa Secunda Mars, où il prend l'Imago Dei et il essaie de faire la théologie de la béatitude, l'image de Dieu. On voit très bien que dans cette perspective d'une théologie morale, c'est le point de vue du Dominium qui commande un peu toute la perspective de la personne humaine. La personne a ce Dominium par rapport à son vouloir et par rapport à toutes les activités volontaires. Et ce Dominium, donc, vous voyez, ce n'est plus au niveau métaphysique. C'est ça qui est important et c'est ça l'équilibre très dynamique. Jusque-là, dans la perspective de Boès, saint Thomas a développé beaucoup et pour essayer de comprendre ce que c'est que la substance individuelle dans la nature intellectuelle, dans le point de vue moral. Et dans sa théologie morale, il part dans une perspective toute différente. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. Mais c'est pour vous montrer toute la richesse de la personne. Et pour montrer que de fait, si on prend qu'un aspect, on voit très bien, c'est toujours les deux aspects, ce que on peut définir la personne uniquement par l'éthique. La perspective de la phémologie, si vous voulez. Le dominium par rapport à ses propres activités, est-ce que ça permet de définir ce que c'est que la personne? Ou est-ce qu'on est obligé d'entrer en métaphysique? D'avoir un regard métaphysique pour la personne. Il faut se poser la question. C'est important parce que ça fait comprendre que s'il n'y a pas de philosophie première, on ne peut pas arriver à préciser pleinement ce qu'est la personne humaine. Si du moins l'éthique ne suffit pas. Du reste, il y a une autre question alors plus fondamentale encore. Est-ce que je peux véritablement faire une éthique sans métaphysique? C'est toutes ces questions qui sont sous-jacentes. Comment on peut se poser la question, peut-on faire une philosophie de la nature sans métaphysique? Quels sont les liens qui existent dans les diverses parties de la philosophie? Ce sont des liens analogiques, oui, mais quand on dit des liens analogiques, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux faire une éthique parfaite sans faire une philosophie du Vacheré? Puis faire une éthique parfaite sans faire une politique. Puis faire une éthique parfaite sans avoir la conception de ce que c'est que la nature, le vivant et la métaphysique. Vous voyez, c'est toutes ces questions qui sont très importantes étant donné que nous avons, nous, des visions univoques de la science hein, à cause de l'emprise mathématique sur toutes les sciences particulières. Alors nous avons une vision univoque de la science, ayant une vision univoque de la science, nous croyons qu'on peut établir une science complètement indépendamment d'une autre. Alors est-ce que ce n'est pas le propre de la philosophie de faire que si je veux progresser dans une partie de la philosophie, l'éthique par exemple, je suis obligé d'entrer en métaphysique, en philosophie du vivant, même en philosophie de la nature. Que toutes les parties de la philosophie se tiennent des connexions essentielles. On ne peut pas se spécialiser en philosophie. C'est ça la chose terrible. On peut se spécialiser en histoire. Je peux me spécialiser en histoire de la philosophie grecque, du moins. C'est bon. Même là, je mettrai un bémol. Parce que si je ne suis pas philosophe, comment voulez-vous faire l'histoire de la philosophie? Impossible, je crois. Si vous n'êtes pas philosophe, comment voulez-vous faire l'histoire de la philosophie? Vous ne pouvez pas. Parce que vous traitez d'un sujet que vous ne connaissez pas. c'est la fameuse bataille qui existe aujourd'hui quand on veut maintenir une philosophie avec une métaphysique au sommet. C'est la bataille dans laquelle on se trouve. On veut faire, par exemple, une dissertation sur Aristote, un doctorat sur Aristote, uniquement d'un point de vue historique et philologique. Mais c'est impossible. Puisque vous traitez quelqu'un qui se dit philosophe, comment voulez-vous atteindre la pensée d'un philosophe par un point de vue purement historique et par un point de vue purement philologique? Vous ne pouvez pas. Vous devez entrer dans sa philosophie, comparer avec ce avec lequel il fait allusion. Évidemment, c'est plus difficile de faire un doctorat d'Aristote parallèlement, par exemple, à Bergson. Parce qu'ils ne se sont pas connus. Tandis que voir Platon et Aristote, ah, très bien, explicitement, il y a un regard d'Aristote sur Platon. Il n'y a pas de regard explicite de Platon sur Aristote, mais il y a un regard explicite d'Aristote sur Platon. À ce point de vue-là, je peux très bien essayer de comprendre. Mais comment voulez-vous comprendre ce regard d'Aristote sur Platon si je n'ai pas compris la recherche de la vérité? Quand Aristote dit explicitement que la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Alors, je crois, et c'est ça qui est important ici pour la vision de la personne, parce que c'est peut-être ça qui nous donnera la clé pour ensuite, après qu'on aura quitté Saint-Thomas, de nous poser le problème. Posez-vous la question, ça a un intérêt au-delà du problème de la personne, un intérêt pour toute votre philosophie. Pouvons-nous séparer une partie de la philosophie d'une autre partie? Ou est-ce que le problème de la philosophie, n'est-ce pas justement d'impliquer toutes les parties en acte, mais pas nécessairement explicite. Autrement dit, alors vous voyez, c'est grave ce qu'il faudrait se poser comme question. Problème critique. Pouvons-nous parler d'une partie de la philosophie, mettez l'éthique, puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Et la philosophie première, je renverse le schéma habituel, hein. Philosophie première est d'habitude au sommet, et l'éthique n'est pas au sommet. C'est le nous humain, donc pas de la philosophie pour connaître la Lune. Non. Parce que si je faisais la philosophie pour apprendre ce que c'est que la Lune, je serais obligé d'avoir un petit institut particulier pour faire que tous les étudiants soient des cosmonautes. Dis-moi, nécessairement, pour avoir une expérience particulière. Mais on fait pas ça. Je fais pas la philosophie pour apprendre ce que c'est que les araignées. On peut s'intéresser aux araignées. C'est important, parce que c'est chez l'araignée, vous savez bien, que l'irascible est le plus développé. La vie aux amateurs. Si vous voulez vous spécialiser sur l'irascible, cultivez les araignées. Il y avait au Sochoir un père qui avait tout ce qu'on pouvait dire sur les araignées. La sexualité des araignées. Tout un secteur énorme. Alors, c'était l'irascible de l'araignée. C'était la bête la plus méchante qui soit au monde. Elle ne vit que pour ça. Elle ne vit que pour la méchanceté. C'est extraordinaire. Elle est créée par le bon Dieu. C'est sans doute pour vous montrer que l'homme étant quand même bon. C'est sans doute pour ça. C'est très rare de voir quelqu'un d'aussi irascible rester des heures entières à attendre que la mouche tombe dedans pour se jeter dessus. Vous voyez ça? À la fin du couloir, attendre quelqu'un, je t'attends là, et puis t'es immédiatement. Ce sont des pions substantiels. Mais ils sont là uniquement. C'est très curieux de voir ce que c'est que l'araignée. Bon, je fais pas la philosophie pour ça. Je fais la philosophie pour étudier ce que c'est que l'homme et la vérité par rapport à l'homme. C'est ça. Alors, la vérité est une notion analogique. L'homme n'est pas une notion analogique. Ça, c'est la matière que j'étudie. Tandis que la vérité, c'est une notion analogique, c'est la connaissance. Donc, il y a diverses modalités de la vérité. Je n'étudie pas et je n'atteins jamais la ratio veritatis en dehors des modes. Et c'est par là que je comprends l'unité fondamentale de la philosophie. C'est que chaque mode de la vérité ne peut se comprendre qu'en perfectionnant la ratio. Et chaque fois que je perfectionne tel ou tel mode, il y a des répercussions en acte sur toutes les autres modalités. Vous voyez, je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre comment il y a des répercussions, mais des répercussions pas indirectes, directes. Si vous entrez plus profondément en philosophie première, vous aurez une éthique beaucoup plus affiné. Et si vous perfectionnez l'éthique, vous aurez une philosophie première plus affinée. Et c'est vrai pour chaque partie de la philosophie. Alors, vous ne pouvez pas les étudier toutes de la même manière. C'est pour ça qu'ordinairement, on prend éthique et philosophie première. À côté de l'éthique, on prendra l'étude du facere, l'art. On ne connaît bien la prudence philosophiquement que quand on étudie l'art. Ça, c'est sûr. Et on prendra le point de vue politique. Parce que je ne peux bien étudier ce que c'est la morale personnelle que si je comprends aussi ce que c'est que la morale communautaire. Vous voyez comment ça s'interfère. Et pourtant, chaque fois, il y a des principes propres et des structures différentes. Et je peux faire le même raisonnement pour les autres parties de la philosophie spéculative. Vous voyez, réfléchissez sur la ratio veritatis. Puisque le propre de la philosophie, c'est de chercher la vérité. Si le propre de la philosophie, c'est de chercher la vérité par rapport à l'homme, la matière immédiate de la philosophie, c'est l'homme. C'est pas le regard spécial. Mais c'est l'homme que j'étudie, c'est l'homme que j'essaie de comprendre. À travers tout. Ça, je crois que c'est ce que nous devons dire aujourd'hui. Mais étudier l'homme me conduit à la métaphysique. Et la métaphysique n'est plus une anthropologie. Mais la métaphysique me permet d'aller plus loin dans l'anthropologie et d'atteindre l'homme religieux, d'atteindre la personne de l'homme pleinement. Donc, la vie. de la philosophie, c'est étudier tout être réel. Ça, c'était la scolastique qui disait ça. Je crois qu'il faut aujourd'hui préciser, c'est pas étudier tout être réel, c'est étudier un être réel qui est l'homme, qui est au sommet de tous, mais qui en même temps a quelque chose de particulier, et je l'étudie pour chercher ce qu'il est, pour atteindre la vérité de cette réalité existante qui est l'homme. La vérité. Or, la vérité est une notion analogique. Elle a des modalités différentes. Et toutes les modalités de la vérité intéressent le philosophe. Toutes les modalités de la vérité intéressent le philosophe. Mais évidemment, certaines modalités purement formelles, comme en vérité mathématique, l'intéressent de façon beaucoup plus lointaine, parce que ça ne touche pas en acte l'homme. Alors il faudrait dire toute vérité dans laquelle l'homme est impliqué en acte intéresse le philosophe. Et cette vérité, elle m'est donnée selon les 6 modalités, ou les 7 modalités, puisqu'en réalité il y en a 7, les 7 modalités de ma philosophie. Puisque c'est une notion analogique, elle est en acte dans tous les modes. Et puisqu'elle est en acte dans tous les modes, si je me perfectionne d'un côté, nécessairement il y a une répercussion sur les autres. Vous voyez, le jour où on ne recherche plus la vérité et qu'on recherche la certitude, la certitude est-elle une notion analogique? Ou la certitude a-t-elle au contraire quelque chose de beaucoup plus subjectif? Est donc beaucoup plus univoque. Parce qu'au fond, à partir de Descartes et avant Descartes, la philosophie n'est plus la recherche de la vérité, mais la recherche de la certitude. Or, la certitude, c'est une notion subjective. Dans la mesure où c'est une notion subjective, elle n'est plus analogique. C'est sûr. Parce qu'elle devient quelque chose qui donne au sujet une détermination particulière, mais qui n'a plus la même diversité que la vérité. Alors ce serait intéressant de se poser la question, est-ce à partir de là que de fait la philosophie est tombé dans une certaine univocité. Et tombant dans une univocité, on a des parties de la philosophie. Il n'y a plus ce regard divers dans l'unité. Et par le fait même, si on étudie l'homme et la personne humaine, on étudiera le sommet de la pensée philosophique. De cette pensée philosophique qui cherche la certitude. Mais on ne verra plus les diverses manières d'atteindre la personne humaine. Et je crois qu'on peut dire ça. Réfléchissez-y, parce que ça c'est important pour essayer de comprendre toujours ce problème de la personne, puisque oui, ça touche directement à ça. Si j'accepte que chaque partie de la philosophie a son autonomie et son caractère spécifique, je vois donc que nécessairement, j'aurai cette manière de parler de l'homme et de la personne. C'est ça que je voudrais au terme. On va essayer. Mais ce serait très intéressant d'aboutir à ça. Parce que vous verriez par le fait même que quand vous ne parlez de la personne que d'une seule manière, ben vous tombez dans l'univocité. Regardez ce qu'est la personne chez Descartes, chez Occam, et ainsi de suite, même chez Suarez, qu'on a visité avant. Bon, alors, pour saint Thomas, la partie, quand on est dans la théologie morale, c'est le dominium à l'égard des actes qui caractérisent personne a ce pouvoir de poser des activités volontaires. Et ce sont les activités volontaires qui ont justement ce dominium. Elle arrive à ça. La personne peut s'orienter de diverses manières à travers ces diverses activités. La personne est donc le sujet de ces diverses activités, et elle en est la source. Ce sera ça que je verrai, le point de vue de la personne, ce sera le jeu. Quand je veux comprendre comment je suis sujet de diverses activités, et que je suis la source de ces diverses activités, je me dis, c'est moi qui suis source de ces activités. Je suis la source de ses activités. Mais la personne va se ramener à cette conscience que j'ai d'être source de ses activités et en même temps d'être déterminé par ses activités. Vous voyez qu'à partir de là, la personne va se définir comme le noyau de la conscience des diverses activités et le noyau des déterminations de ces diverses activités, la source. La personne est vue comme une source de ces diverses activités libres. Je crois que ça me semble assez net si on regarde uniquement le point de vue de la théologie morale telle que saint Thomas la regarde dans le dominium. Alors évidemment, chez saint Thomas, c'est jamais uniquement le point de vue des activités, puisque c'est toujours la personne humaine, l'activité propre de la personne pour saint Thomas est co-extensive à celle de l'intelligence et de la volonté. Une telle activité a ceci d'unique qu'elle s'épanouit librement. Alors, savoir, et ceci c'est très important, puisque certains ensuite l'ont dit, savoir si l'activité libre est le propre de l'activité de la personne. Vous voyez, autrement dit, puis-je définir la personne par la liberté qui est donnée à l'intérieur de ses actes? Le dominium à l'égard de nos actes est-il bien défini par le point de vue de dire que la personne, c'est le centre de la liberté? C'est une très belle question, ça. Parce que de fait, c'est ce que vous verrez. Constamment, on définit la personne par la liberté. Saint Thomas ne tombe pas du tout dans le panneau, hein. Alors on dira, c'est pas étonnant, il est du Moyen-Âge, il est donc dans une perspective objective. Et dans la perspective objective de saint Thomas, la liberté n'est pas ce qu'il y a de plus déterminant pour la personne. Alors regardons d'abord dans saint Thomas, pour ensuite essayer de comprendre si ce qu'il dit, on peut encore le garder. Alors d'abord, toujours, n'oublions pas qu'il parle en théologien. En théologien, c'est net. C'est très net. Dans l'Évangile, il n'est jamais dit que ce qu'il y a de suprême dans l'homme, c'est la liberté. C'est dit explicitement que c'est l'amour. Je ne peux pas être chrétien et affirmer que la liberté est le constitutif de la personne humaine. Si je suis chrétien, dans la foi, je dis, qu'est-ce qui structure l'image d'un Dieu amour? C'est la capacité que l'image a d'aimer. Ça me semble immédiate. Et quand on parle de la liberté des enfants de Dieu, n'oublions pas, il faut d'abord être enfant de Dieu. Dieu, c'est d'aimer. L'enfant de Dieu, c'est celui qui aime. Et que la liberté n'est pas première. Pour saint Thomas, c'est très, très net. Et c'est important de bien comprendre que pour saint Thomas, l'activité propre de la personne est coextensive à celle de l'intelligence et de la volonté. Or, quand il s'agit de la volonté, l'acte le plus fondamental de la volonté, c'est le velle, c'est le vouloir. Le vouloir n'est pas toujours libre. Vouloir, c'est aimer. Puisque je suis polarisé par un bien qui m'attire et que j'aime. Donc vouloir, c'est aimer. Ce velle a donc en lui quelque chose qui est au-delà de la liberté. C'est l'amour. Ça, je crois que c'est très important de bien saisir que l'acte libre, l'acte d'amour libre, se définit en fonction d'un amour plus fondamental, qui est naturel. L'appétit spirituel naturel qui fait qu'on aime naturellement le bien. On a un appétit naturel vers le bonheur. Vous n'êtes pas libre de choisir d'être dans le bonheur ou le malheur. Non. Ça s'impose à vous. Vous n'avez pas le droit de choisir le malheur pour être plus vertueux. Pas le droit. Vous n'avez pas le droit de choisir le malheur. Il y a un appétit naturel vers le bonheur, il y a un appétit naturel vers le bien. Je suis lié au bien naturellement. Donc, la liberté, elle est seconde. Elle se traduit très vite. Parce que je suis libre d'aimer ou de ne pas aimer. Ah, il y a donc là, voyez, et c'est là l'os. Si je suis libre d'aimer ou de ne pas aimer, la liberté est donc au-delà de l'amour. Alors vous avez quelque chose de très analogue, voyez, à ce que vous avez dans la dialectique hegelienne. Et je crois qu'il faut le prendre en parallèle, parce que les deux se tiennent. Dans la dialectique hegelienne, vous avez affirmation et négation. L'intelligence le douce. Il affirme et il dit. L'affirmation regarde ce qui est et la négation ce qui n'est pas. Entre être et non-être, je suis en face d'une contradiction. Enfin, c'est pour ça que ça ne peut pas être en même temps. L'être et le non-être ne peuvent pas être en même temps. C'est la capacité d'affirmer et de nier. Je me mets dans la perspective hegelienne. C'est la capacité d'affirmer et de nier. Je peux affirmer, je peux nier. Donc, si je peux affirmer le je dans le nous, la subjectivité transcendantale dans le nous est capable d'affirmer et de nier. Je suis donc au-delà de l'affirmation et de la négation. C'est donc quelque chose qui est plus radical que être et non-être. Vous voyez, j'espère, que la contradiction être et non-être regarde l'aspect objectif et le primat de la subjectivité. Aristote, c'est le seul philosophe qui forme. Donc, c'est intéressant. premier entre Hegel et Aristote. La dialectique ne peut se comprendre que subjectivement. Alors là, très bien. Si je suis pour l'aspect de la subjectivité transcendantale, alors je suis tout à fait d'accord qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'affirmation et de la négation. C'est ma capacité que j'ai d'affirmer et de néguer. Ma capacité. Hein, c'est vieux ça, la capacité. La dunamis. La dunamis transcendantale de nos peut affirmer et nier. Et l'affirmation la plus forte, c'est ceci est. Et la négation la plus forte, ceci n'est pas. Donc, la puissance est antérieure à l'affirmation et la négation. Vous voyez le néoplatonisme qui renaît. Il y a un endroit dans Plotin qui est très extraordinaire. Peut-être l'Énéade la plus significative de Plotin, c'est quand Plotin essaie de voir le lien entre l'un et le bien. Parce que les deux grandes affirmations de Platon, l'un et le bien, Platon jamais ne voit le lien entre l'un et le bien. Mais l'un est au-dessus de tout, le bien est au-dessus de tout. Alors on comprend très bien que le grand commentateur, le grand herméneute de Platon, va se dire comment le bien et l'un sont-ils, peuvent-ils s'unir? Eh bien, c'est la dunamis. Donc la puissance. C'est la puissance qui unit l'un et le bien. Vous voyez, le triangle. C'est la dunamis qui fait bien. C'est donc la puissance et la capacité d'affirmer et nier. Et c'est la puissance, la dunamis qui va permettre de comprendre comment l'un et le bien sont un. C'est encore beaucoup plus fort que Hegel, ça. C'est vrai, c'est beaucoup plus fort. C'est dit de façon beaucoup plus explicite, c'est beaucoup plus fort de voir que c'est la capacité, la dunamis, le pouvoir, la puissance. La puissance, c'est pas l'acte. C'est la capacité d'être. C'est la capacité. C'est la capacité, la dunamis. Elle est abus. C'est la toute-puissance. Elle est, en quelque sorte, ce qui fait le métaxu entre l'un et le bien. C'est ça qui fait le métaxu. Qu'est-ce qui fait le métaxu entre être et non-être, affirmation et négation? C'est ma capacité d'affirmer et nier. Alors ça, on est dans le point de vue hegelien. Alors, c'est intéressant de se poser la question ici, par rapport au fait, non plus, de la volonté. Je disais tout à l'heure, hein, vouloir est premier et au-delà de la liberté. Mais je peux vouloir ou ne pas vouloir. Alors vouloir et ne pas vouloir. D'aimer et de ne pas aimer. Et cette capacité d'aimer et de ne pas aimer, ben, c'est ma liberté. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? C'est une capacité. La liberté fondamentale, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est ma capacité d'affirmer ou de nier, d'aimer ou de ne pas aimer. Et donc le libre arbitre devient premier, au-dessus. Je suis dans une perspective de la subjectivité transcendantale. Regardez ces trois affirmations. Je crois que c'est très important parce que c'est là où on voit des connexions semblables. Plotin, Hegel et Sartre. Les trois. On ne peut pas nier que pour Sartre, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus grand. Là, c'est sûr. Et donc, la personne humaine se définit par la liberté. Si encore une personne, passion, dit-il. Mais c'est la liberté qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas que Sartre. Mais Sartre, c'est celui qui le dit le mieux. Il affirme avec plus de force. Alors vous avez donc ces trois, et des trois côtés, vous voyez, qu'est-ce qui permet de dire ça? L'aspect de la subjectivité transcendantale. C'est l'aspect de la subjectivité transcendantale qui permet de dépasser l'un et le bien, ou de les unir, de les dépasser pour les unir, de dépasser l'être et le non-être, de dépasser l'amour et le non-amour par le point de vue de la liberté. Et donc j'ai les trois aspects qui me montrent comment la dynamis, la capacité, est antérieure à tout. Et cette capacité, en dernier lieu, se dira la liberté. Alors, c'est important de bien saisir ça pour ne pas tomber dans le panneau. Si la philosophie recherche la certitude, l'aspect subjectif est premier. Si la philosophie recherche la vérité, l'objectivité est première. C'est la grande séparation entre les deux aspects. La certitude est subjective. Laissez-moi tranquille avec mes certitudes. Ça me permet de vivre. C'est ce que là, les gens ne veulent pas entendre. Quand vous leur dites, mais c'est la vérité, ça n'a aucune espèce d'importance, moi je suis certain de ça. C'est la certitude. Et vivre dans la certitude. Subjectivité transcendantale. C'est ça qui domine. Alors, si vous vous remettez dans la perspective de saint Thomas, qui est une perspective où l'objectivité est première, vous comprenez que avant l'acte libre, il y a l'amour. Et donc, ce qui caractérise la personne, c'est d'être capable d'aimer. Et que cette capacité d'aimer va être source d'actes libres. Du côté de l'intelligence, l'intelligence est au service de l'amour dans l'ordre pratique. Mais l'intelligence dans l'ordre spéculatif est supérieure. L'oublier. Quand saint Thomas se pose la question, le point de vue de la béatitude est-il un acte d'intelligence ou un acte de volonté? Question extrêmement intéressante. Saint Thomas est bonne aventure. Et si vous êtes attentif à cette manière dont saint Thomas traite la question, c'est très rare que saint Thomas, dans la somme, dit dico. Dans le De Veritate souvent, mais pas dans la somme. C'est très rare que saint Thomas dit moi je dis. Eh bien là, saint Thomas lui dit. Il dit moi je dis que la béatitude est un acte d'intelligence. Et que c'est impossible de dire, il le dit, que c'est impossible de dire que la béatitude. ce qui sauve l'objectivité. Si au sommet notre vie a-t-elle été notre vie humaine et personnelle, c'était la volonté. Il y aura encore la subjectivité. Je crois qu'il faut aller jusque-là si on veut comprendre la pensée de saint Thomas et l'objectivité de saint Thomas, ce qui est difficile à comprendre. Cet article est capital, voyez, quand il regarde la question. Il y a plusieurs lieux dans la somme où il compare l'être et le bien, l'intelligence et la volonté. Mais là, il s'agit de l'exercice même de l'intelligence et la volonté, de l'acte. Est-ce que la béatitude consiste dans un acte volontaire ou un acte intellectuel? Et alors, il affirme que la volonté, que la béatitude ne peut consister que dans un acte d'intelligence qui seul unit directement à l'être premier créé. Et c'est pour ça que la béatitude consiste dans un acte d'intelligence. La volonté, l'amour est antérieure, qui pousse, et elle est postérieure pour manifester, pour épanouir. Très très curieux. Alors, ceci montre que la personne en définitive pour saint Thomas se définit par l'intelligence. Quand il prend le dominium, je suis dans l'ordre pratique. C'est pas suffisant. Ce qui m'intéresse, c'est l'au-delà de la morale, c'est la béatitude. La morale ne m'intéresse que dans la mesure où elle me conduit à la béatitude. Une morale qui ne me conduit pas à la béatitude, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je fais des temps et des efforts, et puis jamais je serai bien heureux. Ce que je cherche, c'est d'être heureux, c'est d'être parfaitement épanoui. La morale est commandée par la béatitude. Il ne faut pas l'oublier. Donc le dominium de ses actes, qui est dans la volonté, est commandé par la béatitude. Or la béatitude consiste dans un acte d'intelligence. Et c'est la personne qui est bienheureuse. C'est la personne, c'est le caractère même de la personne d'être bienheureuse. C'est pas la nature qui est bienheureuse, c'est la personne qui est bienheureuse. Vous voyez que quand on définit la personne par le dominium de ses actes, c'est très bien. Mais allons plus loin, comprenons bien que c'est en réalité la personne capable d'atteindre sa fin ultime par un acte de contemplation. L'acte d'intelligence parfait, c'est-à-dire la contemplation. Et c'est ça qui définit la personne. La personne se définit donc par le nous. Le nous parfait. Alors je comprends très bien que si on comprend mal saint Thomas, on dira, voyez, il intellectualise au saint Thomas. Attention, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il faut comprendre que saint Thomas, c'est pas l'intellectualisme au saint Thomas, c'est que saint Thomas essaie de saisir la structure propre de la béatitude. Et c'est en définissant la structure propre de la béatitude que je peux comprendre ce qu'est la personne humaine. Puisque je crois que ça caractérise la personne d'être bienheureuse. Et au fond, la personne n'est personne que quand elle est bienheureuse. La personne est faite pour la béatitude. Vous ne parlez pas de la béatitude d'un animal. Oui, vous en parlez, oh, il est bienheureux ce petit chat, vous voyez. Ce petit chien, il est bienheureux parce que je le soigne, parce qu'il m'aime bien, vous voyez. Bienheureux, mais il n'est pas bienheureux du tout. Il se repose, c'est tout, mais il n'est pas bienheureux. Tandis qu'au contraire, la personne humaine est capable d'atteindre la béatitude, la fin dernière de se rejoindre à la source de tout être, qui est Dieu. Et le propre de la personne, c'est donc, alors là on va retrouver quelque chose d'extrêmement intéressant, le propre de la personne, c'est donc de rejoindre sa source. Sa capacité de rejoindre sa source. Alors on comprend comment saint Thomas dit tout le temps, l'intelligence capacité.